Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Pourquoi Raymond Poulidor était-il aussi populaire en France? Ce n'est pas évident quand on ne s'intéresse pas au cyclisme ou quand on est né bien après l'apogée de sa carrière. Avant ses obsèques, le mardi 19 novembre, dans son village du Limousin, on a voulu évoquer un Raymond Poulidor jeune, beau gosse, fier de son maillot violet des cycles Mercier, un Poulidor qui vient tout juste de remporter le Tour d'Espagne et qui rêve de battre son rival Jacques Anquetil dans la Grande Boucle. Code Source vous raconte aujourd'hui le Tour de France 1964, pendant lequel il va gagner le cœur des Français. Récit d'Éric Michel et Christophe Bérard du service des sports du Parisien. Christophe Bérard, il y a quelques semaines, le 24 septembre dernier, vous avez cherché à joindre Raymond Poulidor.
C'était à quelques jours des championnats du monde et un des grands favoris était le néerlandais Mathieu Van Der Poel. Et Mathieu Van Der Poel, c'est tout simplement le petit-fils de Raymond Poulidor puisque sa fille Corinne a épousé l'ancien champion néerlandais Adrie Van Der Poel. Et je voulais préparer un portrait en cas de victoire de Mathieu Van Der Poel. Et évidemment, le plus simple, c'était d'avoir la parole du grand-père un petit peu en amont. Je téléphone chez lui et j'ai sa femme qui me dit « Raymond a été hospitalisé, il est un peu fatigué en ce moment, appelez au CHU si vous pouvez le joindre ».
Raymond Poulidor, vous l'aviez croisé aussi sur le dernier Tour de France.
Il y a eu une péripétie qui est un peu passée inaperçue parce que c'était le jour de l'étape de Tignes où Thibaut Pinot a abandonné et où le Tour de France n'est pas arrivé à son terme à cause de problèmes de météo. Raymond Poulidor a eu un petit problème physique parce que quelques heures plus tôt, il avait appris la mort par crise cardiaque d'un photographe de l'organisation et en pleine montée, à un moment on était en altitude, il s'est senti mal. Le véhicule s'est arrêté et finalement, il s'est avéré qu'il était un petit peu fatigué, mais c'était une première alerte. Le cœur de Raymond Poulidor était déjà en train de se fatiguer. Il a fini le Tour de France, il a fini la dernière étape, il a rallié les Champs-Élysées, mais il était déjà très fatigué.
Comment vous expliquez que les gens sont toujours autant heureux de vous voir ?
Parce que je suis toujours présent sur le Tour de France. C'est mon 57e tour. Moi, le Tour de France, c'est ma vie. Le cyclisme m'a tout apporté. Je lui dois beaucoup, beaucoup.
Raymond Poulidor était très apprécié des Français. Éric Michel, il a grandi dans quel milieu ?
Dans un milieu paysan. Il est né dans le Limousin en 1936, dans un tout petit village de la Creuse. C'était le fin fond de la France, mais au sens comme on peut l'entendre aujourd'hui. Il est né dans une ferme en pierre, sans eau, sans électricité au milieu, dans un paysage très pierreux, presque au milieu d'une causse, sans aucun confort. Il était issu d'une famille donc de métayers, avec quatre frères. Et ses parents étaient très pauvres, très très pauvres. Les métayers à l'époque, c'était la caste en dessous des paysans au niveau de la richesse. Il n'y avait pas beaucoup plus pauvres dans la société française à cette époque.
Vous allez tous les deux nous raconter le Tour de France 1964 qui a aidé à construire sa légende. Cette année-là, Raymond Poulidor a de vraies chances de l'emporter.
Oui, il vient de remporter le Tour d'Espagne, la Vuelta, qui à cette époque-là a lieu avant le Tour de France, au printemps. Il est le coureur en forme, il a fait de progrès dans tous les domaines depuis ses débuts sur le Tour de France 2 ans plus tôt, en 1962. Il est bon contre la montre, il est bon en montagne, il est plutôt pas mal au sprint, et puis en face, il a un Jacques Anquetil qui n'est pas forcément au mieux de sa forme et de sa carrière.
Justement, Christophe Bérard, où en est l'autre grand champion français, Jacques Anquetil ?
Jacques Anquetil, dans sa besace, il a déjà remporté 4 Tours de France, donc c'est le record. Son objectif, c'était de battre Louison Bobet, qui en avait remporté 3, donc il n'a plus rien à prouver sur le Tour. Il a gagné le Giro, donc son ambition en 64 est d'être le premier Français à remporter la même année Giro et Tour de France.
Qu'est-ce qu'ils représentent l'un et l'autre ?
En 1964, le cyclisme, c'est le sport français par excellence. Il n'y a pas d'autres champions, à part peut-être Michel Jazzy qui bientôt va faire les Jeux Olympiques de Tokyo, mais il n'y a pas d'autres champions. L'équipe de France de football n'existe pas, elle n'a pas de bons résultats. Il n'y a pas d'idole du sport, à part les coureurs cyclistes. Et les coureurs cyclistes, en 1964, c'est Jacques Anquetil et Raymond Poulidor. Donc toute la France se passionne pour ce duel. Ce sont les deux champions français du moment, les deux grands, grands champions français du moment.
Et les supporters de Poulidor et d'Anquetil sont vraiment très divisés ?
Il y a les pro-Poulidor et les pro-Anquetil. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que la popularité de Raymond Poulidor est déjà supérieure à son palmarès par rapport à Anquetil, qui a 4 Tours de France. Mais clairement, ce qu'on aime chez Poulidor, c'est ce côté naturel, populaire. Beaucoup de gens voient en lui un miroir. À l'inverse, Jacques Anquetil, qui pourtant lui aussi est issu d'un milieu modeste, ses parents sont cultivateurs de fraises, est vu comme quelque part celui qui a un peu trahi sa caste parce qu'il aime le beau, il aime s'afficher, il roule en décapotable, il vit dans un manoir, il gagne mais il ne montre pas d'émotion. Et en 1964, on n'aime pas les beaux vainqueurs. Les années précédentes, il a gagné des Tours de France en étant sifflé, quelque chose qu'on n'imagine plus aujourd'hui. Jacques Anquetil gagne sans être aimé.
Est-ce que l'un représente la droite et l'autre la gauche un petit peu ?
C'est un peu schématique, mais quelque part, oui. Si on est de gauche, on aime Poupou, on aime la sueur, on aime le bagarreur. Si on est plus de droite, eh bien on aime le vainqueur, on préfère le palmarès, l'efficacité à l'émotion.
22 étapes réparties en 22 jours. 4504 km. Voilà la tâche qui attend 132 coureurs cyclistes répartis en 12 équipes.
Ce 51e Tour de France part de Rennes le 22 juin. Première étape, Rennes-Lisieux.
Bonne route et bien sûr que le meilleur gagne.
Normalement, c'est une étape où il n'y a rien censé se passer pour les leaders. Et on arrive au dernier kilomètre. Et juste avant le dernier kilomètre, il y a une chute collective dans laquelle Raymond Poulidor est pris. Jacques Anquetil, lui, passe de justesse. Et au final, Raymond Poulidor va franchir la ligne avec 20 secondes de retard par rapport à Jacques Anquetil.
À partir de la 8e étape, un Français s'empare du maillot jaune.
Il s'appelle Georges Groussard. Alors, vous allez me dire qui est ce monsieur. Il a gardé le maillot jaune sur ce Tour de France pendant 10 jours, ce qui est énorme. Sauf que Georges Groussard, aujourd'hui, il est toujours vivant. Mais malheureusement, personne ne se rappelle de lui.
À l'arrivée de la 9e étape, le 30 juin, à Monaco, Raymond Poulidor commet une erreur qui va lui coûter cher.
On arrive au stade Louis II de Monaco et il y a un tour de piste à effectuer et il pense que simplement il faut faire un demi-arc de cercle alors qu'en fait il faut faire un tour entier supplémentaire. Il franchit la ligne et il coupe son effort et à sa grande surprise, il voit Jacques Anquetil continuer. Il pense que c'est pour une espèce de tour d'honneur. Pas du tout. Il y a encore un tour supplémentaire à faire. Résultat, Jacques Anquetil va remporter l'étape. Prendre une minute de bonification offerte au vainqueur, cette erreur aujourd'hui paraît incompréhensible. Il n'avait tout simplement pas lu le tracé du parcours.
À la veille de la 14e étape, celle du 6 juillet entre Andorre et Toulouse, tout le monde a les yeux rivés sur Jacques Anquetil.
Avant le départ du Tour, un mage qui s'appelait Beline a prédit dans François, un des grands quotidiens d'époque, que durant cette étape, Jacques Anquetil allait faire une chute mortelle dans la descente d'un col. Ça paraît fou.
Et ça a été publié dans le journal.
Et ça a été publié tel quel dans le journal. Et Jacques Anquetil n'était pas quelqu'un d'y croyant ni de pieux particulièrement, mais cette histoire, elle lui a trotté pendant les 15 premières étapes dans la tête. Et si le mage avait raison, peut-être que demain, je ne serais plus là, d'après-demain, je ne serais plus là. Il a eu très peur. Et la veille de cette étape, il y a eu une journée de repos à Andorre. Il y avait un méchoui organisé. Il a mangé, il a bu de la sangria jusqu'à ne plus pouvoir rien avaler. Et le soir, il était malade, mais sans doute pour compenser cette peur qu'il avait de l'étape qui allait suivre.
Et dans cette 14e étape, Anquetil va être en difficulté dans l'ascension du port d'Envalira en Andorre.
Il paye d'ailleurs ses excès de la veille. Et dès l'ascension du port d'Envalira, il est largué. Tous les autres favoris, Bahamontès, Poulidor, Jiménez, le lâche. Il va prendre 4 minutes de retard au sommet. À ce moment-là, tout le monde se dit « il a perdu le Tour de France ». Il va effectuer la descente à tombeau ouvert, il va couper les virages, ne jamais ralentir sa trajectoire, frôler le précipice à chaque fois. Tout le monde va penser qu'il risque l'accident. Cette prise de risque va s'avérer payante, il va rejoindre le groupe des favoris. Deuxième coup de théâtre de l'étape, Raymond Poulidor a une roue qui est voilée. Son directeur sportif lui fait signe qu'il faut peut-être la changer. Il dit « non, c'est bon, si Raymond, changeons cette roue ». Là, son mécanicien lui fixe mal sa roue, il reprend son vélo et il tombe. Voyant cette chute, Jacques Anquetil, pas extrêmement fair play sur ce coup-là, et les autres favoris vont accélérer. Et au final, tout seul largué, Raymond Poulidor va perdre plus de 2 minutes à l'arrivée. C'est-à-dire qu'il aurait pu être le grand vainqueur et endosser le maillot jaune. Au final, c'est le grand perdant de l'étape.
Le lendemain, le 7 juillet, c'est la 15e étape entre Toulouse et Luchon. Dans quel état d'esprit est Raymond Poulidor ?
Il est très en colère pour deux choses, parce qu'il a eu cette mésaventure la veille avec cette histoire de roue voilée, et il est très en colère après Jacques Anquetil, parce qu'il estime, et on lui a dit, que Jacques Anquetil avait été poussé pour revenir, avait été aidé pour pouvoir revenir dans le peloton et refaire son retard, et les organisateurs ne lui ont infligé que 15 secondes de pénalité, ce qui est peu. Raymond Poulidor, ce matin-là, est très très en colère pour ces deux faits, et il va transformer cette colère en force, et il va survoler l'étape et aller la remporter à Luchon. C'est la seule victoire d'étape de Raymond Poulidor sur ce tour.
Attaque du Portillon, col de deuxième catégorie, 1308 mètres d'altitude. De la tête, Evrard se laisse glisser le premier, tandis que le fait du jour se produit. Poulidor démarre et prend le large. C'est à nouveau l'événement d'importance dans le Tour de France.
L'opération est une réussite complète parce que, au final, Raymond Poulidor refait quasiment tout son retard grâce à la minute de bonification offerte au vainqueur. Au classement général, il n'est plus qu'à 9 petites secondes de Jacques Anquetil. Le suspense est relancé.
Mais Poulidor n'a pas d'accident, il ne crève pas, il ne tombe pas. Et il pénètre dans Luchon, toujours seul en tête. La seule question que l'on se pose, eh bien, c'est de savoir s'il conservera une avance suffisante pour revenir à la hauteur d'Anquetil, son rival numéro 1, le grand favori du Tour de France.
Le 9 juillet, 17e étape, c'est un contre-la-montre entre Peyrehorade et Bayonne. Que se passe-t-il pour Raymond Poulidor ?
Le contre-la-montre, c'est le domaine de prédilection de Jacques Anquetil, excellent rouleur. C'est là qu'il a construit notamment la majeure partie de ses succès sur les grands tours. En revanche, c'était le point faible de Raymond Poulidor, qui avait beaucoup de mal dans cet exercice en solitaire. Mais depuis 2 ans, Raymond Poulidor a énormément progressé dans cette discipline. Et là, pendant cette étape, il est en train de faire quasiment jeu égal avec Jacques Anquetil et il perd très peu de temps. Et arrive un nouvel incident pour Raymond Poulidor, une crevaison. Normalement, ça prend quelques secondes pour changer de vélo. Et là, son mécanicien, en sortant du véhicule, glisse dans le fossé, se casse la cheville et Raymond Poulidor, n'ayant plus de mécanicien, de lui-même va chercher le vélo de secours sur la voiture, change la roue, il va perdre 47 secondes sur Jacques Anquetil. Au final, il accuse un retard de 56 secondes, ces fameuses 56 secondes qui vont être son retard au départ de la fameuse étape du Puy-de-Dôme.
Éric Michel, le 11 juillet, cette édition du Tour de France est endeuillée par un accident dramatique en Dordogne.
Un fait divers absolument tragique. Un camion-citerne conduit par un gendarme, un camion-citerne de la caravane du Tour, franchit un parapet et fauche la foule qui attend les coureurs. Plusieurs personnes sont précipitées dans la rivière qui passe en contrebas. Sur le coup, on dénombre 8 morts, dont 3 enfants et plusieurs blessés. Au final, il y aura 9 morts puisqu'une personne décédera de ses blessures. Quelques minutes plus tard, le peloton passera sur cette même route, verra l'accident, verra les traces de l'accident, verra le camion-citerne dans la rivière. Et forcément marqué tous les coureurs. Le lendemain d'ailleurs, avant cette fameuse étape menant le peloton vers le Puy-de-Dôme, le Tour de France respectera une minute de silence à la mémoire des victimes.
Arrive la 20e étape, celle du Puy-de-Dôme, donc entre Brive et Clermont-Ferrand. On en est où ? Au matin du 12 juillet.
Raymond Poulidor a donc 56 secondes de retard sur Jacques Anquetil, mais cette étape du Puy-de-Dôme est annoncée comme l'étape clé du Tour. C'est le terrain de prédilection de Poulidor, meilleur grimpeur intrinsèquement que Anquetil, et c'est là qu'il est censé refaire son retard et endosser pour la première fois de sa vie la tunique jaune. On va dénombrer plus de 150 000 personnes venues à pied parce que la circulation en automobile était interdite. Donc les gens ont laissé leur 403, leur Dauphine, leur DS au pied du Puy-de-Dôme et tout le monde va venir. C'est comme un match de boxe, tout le monde est venu assister à l'explication entre les deux champions. La foule va vociférer, elle sera objectivement plus pro-Poulidor. Il y aura même des insultes qui vont fuser tout au long de l'ascension. Des insultes injustes mais réelles envers Jacques Anquetil. Mais c'est une foule chauffée à blanc qui veut assister à l'explication finale entre ces deux champions.
Pour visualiser cette étape, le Puy-de-Dôme, c'est un volcan. C'est juste une route qui monte, il n'y a pas de descente de l'autre côté. Donc l'arrivée, elle est au sommet, il n'y a pas d'autre échappatoire. Et il y a toute cette foule, toutes ces motos, toutes ces voitures autour. Il y a une ferveur terrible. Il y a 3 à 4 rangées de spectateurs sur cette route, encore une fois, sans issue au bout. Les maillots, ils sont magnifiques. Le maillot de Raymond Poulidor, il est violet et jaune. Jacques Anquetil, il a un maillot jaune. Et il y a toute cette foule, toutes ces motos, toutes ces voitures autour. C'est des images incroyables.
Comment commence l'ascension du Puy-de-Dôme ?
Les favoris s'observent un petit peu, on ne sait pas, parce que partir trop tôt, se livrer, c'est prendre le risque de se faire contrer et de perdre énormément de temps, donc on attend un peu, et c'est vraiment à 4,5 km de l'arrivée au sommet du Puy-de-Dôme que tout va se lancer véritablement. Ce sont les Espagnols, d'abord Jiménez, suivi par son compatriote Federico Bahamontes, déjà vainqueur du Tour, qui vont partir et... Ni Jacques Anquetil, ni Raymond Poulidor, à cet instant, n'ont la capacité physique de suivre les deux hommes. Donc ils vont attendre, ils vont se retrouver l'un et l'autre, côte à côte, pendant que les Espagnols prennent un peu d'avance, mais cette avance n'est pas suffisante pour leur faire espérer la victoire finale. Donc d'un coup, le duel tant attendu Anquetil-Poulidor a lieu, ils sont seuls l'un à côté de l'autre. Il y a une image qui a marqué la légende du cyclisme. On voit Jacques Anquetil et Raymond Poulidor se toucher l'épaule et ça donne l'impression d'un combat presque de boxe, d'intimidation. C'était souffle contre souffle, cri contre cri, bluff contre bluff. C'était à celui qui souffrirait plus longtemps que l'adversaire. Pendant plusieurs kilomètres, on sent que le plus fort, c'est Raymond Poulidor et un petit peu à la surprise générale, il n'attaque pas. La légende dira plus tard que Anquetil, la maman, a bluffé. Il lui a soufflé « Si tu pars maintenant, t'exploses ». Et effectivement, Poulidor hésite, il est en souffrance également. Et en fait, s'il attaque trop tôt, il a peur effectivement, lui aussi, de se faire reprendre par Anquetil. Donc c'est vraiment une question de bluff.
Mais Anquetil, à ce moment-là, est en difficulté.
Anquetil souffre énormément et le jeu, c'est de ne pas le montrer. Le plus fort, c'est Poulidor. Mais le problème, c'est que Poulidor attend trop pour lancer l'attaque, décrocher définitivement Anquetil de sa roue arrière et s'envoler.
Brusquement, à 950 mètres du sommet, Anquetil craque. Poulidor l'a vu et là, il fait appel à toute son énergie, lui aussi pourtant ne pédale pas facilement. Mais il continue, il prend 10 mètres, 20 mètres, puis 20 secondes, 30 secondes, et au sommet, ce sera 42 secondes d'écart entre Poulidor et Anquetil.
Et là, il poursuit son dernier effort. Devant, Jiménez et Bahamontès sont en train de s'expliquer, mais quelque part, ça n'intéresse personne. Et Poulidor, mètre par mètre, reprend des secondes à Anquetil. Est-ce qu'il va réussir à en récupérer 56 ? Sur la ligne d'arrivée, il va prendre 42 secondes à Jacques Anquetil. Jacques Anquetil conserve son maillot jaune pour 14 petites secondes.
Raymond Poulidor est passé vraiment très près de l'exploit ce jour-là.
Il est passé très près parce que Jacques Anquetil, dans sa tête, s'était dit « Si je perds le maillot jaune au sommet du Puy-de-Dôme, j'abandonne. » Parce que, un, je ne supporterais pas de perdre le maillot au profit de Raymond, qui n'était pas son meilleur ami à l'époque. Et deux, c'était une position très importante pour le dernier contre-la-montre. Le maillot jaune s'élance en dernier et est donc renseigné sur les temps de passage de celui qui est parti juste avant. Jacques Anquetil savait que ce maillot jaune, c'était essentiel. Tout s'est donc joué pour 14 petites secondes au sommet du Puy-de-Dôme.
Et on va apprendre que Raymond Poulidor a fait une erreur ce jour-là.
Il a même fait deux erreurs. Il a fait une première erreur, c'est de ne pas reconnaître la montée du Puy-de-Dôme. Quand il a fallu prendre les bons virages, la bonne trajectoire, il a perdu quelques secondes. Sa deuxième erreur, c'est qu'il s'est trompé de braquet. Il a pris un braquet beaucoup trop important. Quand on met un braquet trop important, il faut appuyer plus fort sur les pédales. On perd des secondes à reprendre du rythme, à reprendre sa trajectoire, à reprendre tout ça. Ces deux erreurs, il a dû se dire qu'elles lui coûtent très cher.
On en vient à la 22e et dernière étape, un contre-la-montre entre Versailles et le Parc des Princes à Paris, l'ancien Parc des Princes, et ça va être serré jusqu'au bout.
Ce contre-la-montre va être à l'image du Tour de France, extrêmement serré. Poulidor doit battre Anquetil de 6 secondes pour remporter le Tour de France. Anquetil, plus fin calculateur, tenu au courant des écarts, va gérer son avance, mais Poulidor, surmotivé, extrêmement offensif, à un moment, va revenir à simplement 3 secondes de Jacques Anquetil à 3 km de la ligne d'arrivée. Mais Anquetil a gardé suffisamment de force pour produire un ultime effort. Et au final, il remporte son 5e Tour de France, le plus difficile à remporter, le plus dur, le plus légendaire. Il a battu un extraordinaire champion, Raymond Poulidor. Mais à la fin, on ne retient qu'un seul nom, celui du vainqueur. Et c'est encore, pour la 5e fois, Jacques Anquetil.
Raymond Poulidor, est-ce que vous savez maintenant que tout le Tour s'est joué dans les deux derniers kilomètres ?
Je viens d'apprendre que le temps de Jacques Anquetil est inférieur au mien, c'est-à-dire qu'il a mis moins de temps que moi, alors j'ai perdu le Tour de France.
Sur le pont de Sèvres, vous n'aviez que 5 secondes de retard sur Jacques Anquetil après en avoir compté 12, et à l'arrivée, vous en avez 21. Est-ce que vous avez mal terminé ?
Non, j'ai pas mal terminé, mais c'est Jacques qui a dû terminer très très fort sur les 3 derniers kilomètres de ligne droite, et il a terminé très fort.
Raymond Poulidor, il perd ce tour pour quelques secondes seulement ?
Pour 55 secondes exactement, ce qui est un écart extrêmement minime et le plus petit du Tour de France à cette époque.
Poulidor peut avoir beaucoup de regrets. Sans doute qu'il aurait gagné ce Tour de France sans toutes ces petites erreurs, sans toute cette petite malchance. Mais si Raymond Poulidor avait gagné ce Tour de France 1964, sa légende n'aurait pas été la même.
Raymond Poulidor est resté dans le cœur des Français aussi parce qu'il était très gentil.
Il était extrêmement avenant. Tous les coureurs encore aujourd'hui, Chris Froome après son décès, Mark Cavendish, l'anglais, le sprinter anglais, ont tous dit qu'il avait le sourire toujours accroché au visage. Il s'intéressait. Déjà, il était proche des gens. C'était pas Poulidor, c'était Poupou.
Christophe Bérard, le 24 septembre dernier, vous avez réussi finalement à le joindre au téléphone ?
Oui, j'ai appelé le CHU de Saint-Léonard-de-Nobla. Je me souviens, on m'a dit c'est la chambre 7103. C'était un de ses anciens coéquipiers qui m'a répondu. Il m'a dit « Raymond est fatigué, attendez un instant ». Et il m'a dit finalement, ok, je vous le passe. Et là, je ne vous cache pas que j'ai eu un choc par rapport au même Raymond Poulidor que j'avais encore croisé quelques semaines plus tôt sur le Tour de France. La voix était chevrotante, fatiguée. D'ailleurs, je lui ai dit, écoutez, je vais vous laisser tranquille, Raymond. On parlera de ça une autre fois. Il a quand même accepté de me parler de son petit-fils Mathieu Van Der Poel en m'expliquant à quel point lui avait terminé deuxième d'un championnat du monde en 1974 et à quel point il aimerait voir son petit-fils remporter le championnat du monde 2019. Mais ses mots étaient fatigués. À un moment, je lui ai dit « Raymond, je vous appellerai une autre fois, je ne veux pas vous déranger. » Et il a eu cette phrase « Non, écoutez, on va le faire maintenant, je ne sais pas si j'arriverai à vous parler un peu plus tard. » On a continué et on a raccroché là-dessus. Je ne savais pas en raccrochant que c'était la dernière fois que je m'adressais à Raymond Poulidor.
Merci à Christophe Bérard et Éric Michel. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Production Marion Botorel, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applis de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.